Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde sur le thème « Avorter, nous ferons le reste ». Alors, comme vous le savez, je pense pour la plupart, l'avortement a été légalisé en France en 1975. Aux États-Unis en 1973, donc ça fait 45 ans. Il vient d'être légalisé en Irlande, mais il rencontre notamment des oppositions encore aujourd'hui dans l'Est de l'Europe et en Argentine, par exemple, où il n'a pas été légalisé, justement. Amnesty International estime que dans le monde, 60% des femmes n'ont pas encore accès librement à l'avortement et que toutes les 9 secondes, il y a un avortement clandestin qui est pratiqué avec notamment des femmes qui risquent d'y perdre la vie. Donc c'est un enjeu majeur, humain et politique, qui est très peu abordé dans la science-fiction. Donc l'objet de cette table ronde, c'est un peu de se demander pourquoi. Et pour répondre à cette question, nous accueillons aujourd'hui donc l'ICAM, Catherine Dufour et Thierry Harvey. Catherine Dufour, vous êtes ingénieure en informatique, autrice et chroniqueuse au monde diplomatique. Vous avez écrit notamment de la science-fiction avec votre roman Le goût de l'immortalité, mais vous avez, qui a reçu d'ailleurs le Grand Prix de l'imaginaire, mais vous avez aussi abordé de la fantaisie un peu humoristique avec le cycle Quand les dieux buvaient. Et vous êtes sortie aussi de la fiction pour sortir, par exemple, un guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas finir princesse, ou un livre comme La vie sexuelle de Lorenzaccio. Votre dernier ouvrage, Entends la nuit, qui est de la fantaisie, est paru ce mois-ci à La Talente. L'ICAM, vous êtes également autrice. Vous êtes biologiste de formation, en revanche, ainsi que coach en créativité actuellement et directrice littéraire de la collection de nouvelles graphiques Petites Bulles d'Univers chez Organic Éditions. Vos romans sont aussi très protéiformes, puisque vous abordez aussi bien de la fantaisie urbaine avec les chroniques de Strige, ou encore de la science-fiction peut-être plus philosophique avec votre dernier roman, Cyberland, qui est paru chez Mu Éditions et qui a reçu le prix Bob Moran. Vous êtes notamment connue pour vous intéresser de près à tout ce qui relève des questions psychologiques et de relations humaines et de grilles de perception culturelle. Et enfin, nous accueillons aujourd'hui aussi Thierry Harvey. Vous êtes gynécologue obstétricien à la maternité des Diaconesses à Paris, et vous vous définissez comme militant pour la vie des femmes. Vous faites notamment partie de l'association Petite Émilie, qui est une association de soutien aux personnes étant confrontées à des interruptions médicales de grossesse et à des deuils périnataux. Donc pour commencer peut-être cette table ronde, on peut peut-être se poser une question ouverte, d'ailleurs à un de vous trois. Alors que l'avortement a été légalisé, donc, comme je l'ai dit, aux États-Unis en 1973, à l'époque, la science-fiction était très marquée par la montée d'autrices dans le genre. Il y avait notamment des grandes voix comme Ursula Le Guin ou Joanna Russ. Et à ce moment-là où les enjeux féministes imprégnaient la science-fiction, avait lieu la lutte pour le droit à l'avortement. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, l'avortement n'est pas devenu justement un enjeu central de la science-fiction ?
Alors là, moi, j'en sais rien du tout. On s'est creusé la soupière pour trouver des traces d'avortement dans la science-fiction et on n'en a pas trouvé, en fait. Pas ou peu. Alors, il y en a un avortement sanglant dans le film Prometheus. Moi, je ne l'ai pas vu parce qu'on m'a dit qu'il était nul. Mais c'est tout, voilà. Et savoir pourquoi... Alors, d'abord, c'est simple, parce que la SF, ça parle de boulon, alors que l'avortement, c'est profondément organique. Ensuite, parce que dire que la SF tout d'un coup est devenue féministe, ça veut dire au lieu d'avoir zéro auteur, il y en a eu trois. Hein, il y avait Le Guin, il y avait Joanna Russ, Margaret Atwood, et puis qui d'autre ?
Elisabeth von Arberg.
Oui, mais enfin dans les années 70, non pas encore. Non. Voilà, donc, et elles ne se sont pas emparées de ce sujet. Je pense qu'elles ont eu au contraire à cœur de s'emparer de sujets dits masculins, c'est-à-dire plein de boulons. Sachant que l'avortement est toujours considéré comme non seulement une histoire de gonzesse, mais en plus un échec. Voilà. C'est-à-dire qu'on avorte dans l'imaginaire, en tout cas, de l'ASF des années 70, ça n'existait pas. C'était on avorte parce qu'on s'est planté, étant donné que la contraception existe, ce qui est une grosse bévue, puisque la plupart des avortements sont le fait de femmes qui sont sous contraception. Voilà. Donc, c'est un point cataclysmique. Dans Star Wars, ils sont capables d'aller plus vite que la lumière. Vous aurez tous remarqué que quand Amidala accouche, ils n'ont même pas été foutus d'inventer la péridurale, quoi. Donc, au niveau obstétrique, la science-fiction, c'est étrange qu'il n'y ait pas au moins une femme de science-fiction qui s'en... Voilà, alors s'il y a justement des jeunes femmes là, ou moins jeunes, on s'en fiche, dans le public qui ont envie de s'emparer du sujet, on a vraiment besoin de femmes dans l'ASF, justement pour combler ces trous béants dans la narration.
Je peux juste donner deux, trois chiffres. Le nombre d'IVG en France, 220 000, et celle, entre guillemets, due à un échec ou un mésusage de la contraception, 20 000. Donc ça fait juste 10%. Voilà. En vrai, c'est donc des femmes qui pensaient qu'elles avaient soit une contraception efficace, dans le genre mon mari est fort, il sait se retenir, égal de points de suspension au retrait, ou le fait qu'effectivement, sous pilule, il y a de vraies ovulations et qu'il y a aussi des grossesses sur dispositif intra-utérin, encore communément appelé stérilet. Donc voilà, juste pour donner un vrai chiffre de stats.
Déjà en science-fiction, pendant très longtemps, on n'a pas eu beaucoup d'héroïnes. C'était surtout écrit par des hommes.